Nous y sommes, la troisième et dernière partie de l'étude sur le mythe de la normalité de Gabor Maté. On a parlé du lien entre type de personnalité et maladie dans la partie 1. On a dépersonnalisé le trauma qui est généré par un système pervers dans la partie 2, un système qui consacre des personnes qui font de la psychopathologie une stratégie payante. Et cette fois-ci, on va revenir à notre échelle à nous, avec des solutions concrètes pour se désincarcérer de ce dit système prédatorial et toxique. Plus ambitieux encore, on va parler complétude avec le docteur Gabor Maté, ça c'est tout de suite donc du côté de chez Soigny.
Bonjour, je m'appelle Soigny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti!
Je m'appelle Soigny Kanga, je suis journaliste et essayiste et ce podcast est entièrement dédié à la guérison post-trauma. Mais alors justement, qu'est-ce que la guérison? Eh bien, selon l'auteur canadien Gabor Maté, dont le livre nous sert de fil rouge depuis le début de l'étude, ce n'est rien de plus qu'un élan. Un élan vers la complétude. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce n'est pas une destination, mais c'est une direction. Le but n'est pas d'arriver quelque part ou de se juger incapable de le faire ou d'être à un certain stade, mais c'est d'être sur ce chemin. Être sur ce chemin constitue déjà l'action active de guérir. C'est une ligne et non pas un point, nous dit Gabor Maté. Ce n'est pas une destination, donc ce n'est pas non plus un élan vers l'amélioration. Mais c'est un élan vers la récupération de ces parties de nous qui ont dû se fragmenter. Lorsque l'on vit une enfance traumatisante, on est comme une barque qui prend l'eau, on balance tout ce qui n'est pas lié à notre survie immédiate, donc l'assertivité, la faculté à poser des limites, notre part d'ombre, au point de croire parfois même que nous en sommes dépourvus. Où sont passés tous ces éléments? Eh bien, ils se sont éparpillés pour nous laisser survivre, et guérir consiste dans leur récupération afin de redevenir humain, plus humain, tout simplement. Donc un humain qui se trompe, un humain qui est parfois de mauvais poil, un humain qui dit non, qui sort de l'hypervigilance, un humain réaliste, pas tout puissant, pas omniscient, pas un bouc émissaire qui porte les péchés du clan, juste un humain. Donc le but, c'est de recouvrer ces fragments, et donc ce n'est pas de changer, ni de s'améliorer, et entre parenthèses, j'ai toujours détesté l'expression « aller vers la meilleure version de nous-mêmes », ça m'horripile parce que, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Métamorphose, pourquoi il faudrait, pour guérir du trauma, que je sois autre chose que ce que je suis déjà. Je n'ai jamais compris ce concept. Ce que je peux, c'est simplement opérer des mues à l'intérieur de la dignité qu'il y a déjà à exister en tant que moi-même. Et donc quand j'entends ça, soit la meilleure version de toi-même, j'entends « tu n'es pas convenable ». Et guérir, ça ne peut pas être de changer. Autrement, on fait croire aux gens qu'ils sont traumatisés suite à une action de leur part, et donc, s'ils avaient été différents, ils n'auraient pas été traumatisés. Et de manière un peu méta, après avoir écouté l'épisode 2, si ça avait été différent, ils ne porteraient pas les stigmates d'un système sclérosé qui agit en grand prédateur. Donc le problème, c'est eux, et il faudrait le changer. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas notre imperfection qui nous a traumatisés. Hein. C'est la violence d'un certain milieu, et nos défauts n'ont jamais été à la source de tout ce mal. Donc je ne vois pas en quoi être mieux serait autre chose qu'une morsure supplémentaire. Donc parmi ces fragments éparpillés, il y a, nous dit l'auteur, l'authenticité. On en parle beaucoup au fil des épisodes. L'authenticité qui n'a pas passé le filtre de la séquence survie. Donc on l'a sectionné, et on pourrait rajouter la rage, la colère, l'assertivité. Tout cela est coupé au montage lorsque l'on veut éviter de prendre l'eau. Donc guérir, c'est aller récupérer cette voie organique, viscérale, primitive, légitime. Et donc, plutôt que de se demander ce qui ne va pas en nous, eh bien le docteur canadien nous incite à nous demander où est-ce que cette complétude, donc ce regroupement de ce qui a été éparpillé, où est-ce que cette expression organique n'a-t-elle pas encore été réalisée aujourd'hui en nous, dans notre vie actuelle? Où est-ce qu'on dit encore oui plutôt que merde? Où est-ce que l'on tolère encore une dissension interne pour ne pas voir la désapprobation sur le visage de l'autre? Où est-ce que l'on ne s'appartient pas encore dans l'expression juste de nos émotions en temps réel, et non pas les émotions qui nous garantissent la paix sociale? Qu'est-ce qui se tait encore en nous? Et aller le récupérer en acceptant d'occuper un nouvel espace dans le réel, un espace de vérité. En acceptant de gêner, de ne plus être complaisant, docile, et guérir, c'est développer cette partie-là de nous. Vous voyez, ce n'est pas changer, devenir une meilleure personne, c'est revenir à qui l'on était avant. ou qui on aurait dû être si on n'avait pas été empêché. Et donc ce n'est pas de l'amélioration, comme si notre essence avait un jour posé problème, hein. On ne guérit pas pour gagner en dignité ou devenir meilleur, comme si on rattrapait quelque chose que nous aurions raté structurellement. On guérit dans le but d'accepter qu'on a vécu tout ce que l'on a vécu, bien que l'on ait été parfaitement adéquat tout du long. Ils l'ont fait à une personne qui était parfaitement adéquate et c'est en cela que c'est un crime. La personne n'a pas fauté, n'a pas péché, n'a pas été un bouc émissaire idéal, elle a été désignée comme telle. Donc accepter que les parents abusifs ne le sont pas devenus sous prétexte que votre dignité n'existait pas déjà et rendre cette vérité nouvelle, légitime, évidente, détendre ses épaules et sortir de l'idée que l'on avait quelque chose à voir avec ce crime. Et l'auteur nous dit que la nature humaine porte en elle des rudiments qui aident à la complétude. Et il y a deux cas de figure, puisqu'on a beaucoup parlé de pathologie. On peut guérir et voir les maux physiques associés à nos traumas disparaître, dans le meilleur des cas. Mais on peut aussi guérir sans les voir s'estomper, même si idéalement les deux devraient aller de pair. Mais ce n'est pas toujours le cas. Guérir, c'est avant tout acquérir une nouvelle capacité à vivre dans le présent, avec la vie telle qu'elle est. C'est un processus qui rassemble tout ce que nous sommes, y compris les qualités qui ont toujours été en nous. Et lorsqu'il y a une souffrance physique qui est liée au trauma, eh bien Gabor Maté nous dit qu'il est dans un premier temps nécessaire de reconnaître notre souffrance sans victimisation et pour ensuite s'ouvrir à la vérité de nos vies de manière objective, donc voir que l'on a été blessé et quel impact ces blessures ont eu sur nous et sur la vie des autres. Or, cette lucidité, cette vérité fait mal. Beaucoup cherchent donc à l'éviter jusqu'à ce que le prix de l'inaction devienne trop élevé. Mais donc dans la guérison, il y a ce réalisme-là. Parfois, la résorption des douleurs physiques n'est pas garantie. Lorsqu'il n'y a pas de douleur physique, il y a simplement parfois des moments où l'on recule dans la guérison. Donc ce n'est pas linéaire. Mais la chose nouvelle pour la personne qui est dans cet élan, c'est que pour la première fois, depuis longtemps ou la première fois tout court, elle peut appréhender les choses avec son cœur. Et non plus son intellect, sachant que toute sa vie, cette dissociation, cette coupure du cœur est ce qui a recréé pour elle un sentiment factice de sécurité. Si les émotions sont un sable mouvant qui risque de m'engloutir, si elles indiquent à quel point je souffre, à quel point on me rejette, eh bien je m'en coupe, je ne ressens plus rien de cette manière, et c'est une stratégie très intelligente sur un théâtre d'opération, notamment l'enfance. Et cette distance d'avec le cœur et sa vérité, considérée comme sale et honteuse, permet de garantir un semblant de stabilité, un semblant de contrôle, de sécurité. Et là, le cœur cesse donc d'être une boussole, bien qu'il soit censé l'être, sauf que c'est impossible, hein, parce que ça aurait coûté trop cher. Hein. Et on peut rationaliser en se disant « je ne vois pas où est le problème, je peux très bien voir le monde à travers l'intellect, c'est beaucoup plus sûr ». Mais réponse de l'auteur, qui jette un pavé dans la mare, et écoutez bien, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le très populaire et très réputé intellect peut aveugler lui aussi. On se targue en Occident d'être des êtres totalement rationnels, pourvus de raison au-dessus de la pathétique émotivité, notamment des femmes. Sauf que, nous dit l'auteur, les déductions de votre raisonnement logique et rationnel peuvent, elles aussi, être incorrectes. Le cerveau peut décider de calculer rationnellement quelque chose et arriver in fine à un résultat erroné. Donc nous n'avons pas de mode sans échec, comme si notre cerveau allait puiser dans une base de données ChatGPT intégrée et allait comparer toutes les expériences terrestres avant de rendre son verdict, et un verdict qui serait chimiquement pur. Non, sa conclusion, il la prend sur la base de votre base de données à vous, qui peut être lacunaire. Et soyons réalistes, aussi intelligents que l'on puisse être, nous avons tous une base de données lacunaire, et donc nous sommes tous concernés par l'erreur potentielle de calcul. Ce n'est pas parce que j'utilise la voie déductive, analytique, logique et rationnelle de mon cerveau que le résultat du calcul va être le bon. D'ailleurs, on l'a vu dans l'épisode sur les biais cognitifs avec l'analyse du livre d'Albert Mukaibert, je ne sais jamais trop comment prononcer son nom, votre cerveau vous joue-t-il des tours? Eh bien, dans cette approche analytique, si nous sommes face à une inconnue dans l'équation, donc là notamment il y avait l'histoire de la robe que tout le monde ne voyait pas de la même couleur et qui a fait tout un grand buzz sur Internet, eh bien certains ont fait des suppositions qu'elle était de telle couleur et d'autres de telle autre, et chacun avait l'impression que son cerveau avait fait le bon calcul. Pourtant, c'était pas le même résultat. Donc le cerveau va faire des suppositions. Et supposer, nous dit le Larousse, c'est admettre quelque chose par hypothèse. Donc être rationnel, ne veut pas dire qu'on sort quelque chose de chimiquement pur. Votre raisonnement peut être faux et vous pouvez malgré tout le suivre toute votre vie avec une conviction totale, une sérénité parfaite, convaincu que votre cerveau est arrivé au bon résultat. Donc le cœur, de son côté, a mauvaise presse. Pourtant, c'est un organe vivant, avant de devenir une abstraction connectée à nos sens, c'est un organe vivant avec son propre système nerveux. Ce qui fait que l'on n'a pas juste un, mais trois cerveaux. Et ça peut paraître hérétique pour un traumatisé de réhabiliter le cœur. Là, il y a une partie survie en nous qui pense qu'on est en pleine bouffée délirante. Comment ça, le cœur? C'est quelque chose qui expose, qui peut rendre faible et peut mettre en danger. Certains n'ont simplement jamais eu le luxe d'écouter leur cœur, de pouvoir le faire, d'être assez sécure pour le faire. Pourtant, tout comme des personnes vont survivre et éviter des drames en écoutant leur trip, le docteur nous dit qu'écouter son cœur, c'est aussi suivre son instinct de survie et c'est aussi utile pour guérir. Dans la guérison, le cœur peut même devenir le meilleur GPS. Donc là, on est en pleine hérésie, je comprends tout à fait la dissonance cognitive que je peux provoquer en disant ces phrases, surtout si notre survie a dépendu de notre capacité à nous dissocier du cœur. Mais ce que Gabor Maté nous dit, c'est que guérir, c'est prendre en compte le cerveau conscient et la partie inconsciente de nous, le rationnel et l'émotionnel, comme le territoire que l'on navigue avec le cœur comme boussole désormais. Donc il s'agit de réaligner les deux, le rationnel, l'émotionnel, dans le même espace-temps. Pas juste la rationalité tranchante et froide, mais c'est aller vers une coopération après une existence passée à voir l'un se cacher ou être rejeté par l'autre. Ce que l'on savait déjà, c'est que l'on crée le monde dans lequel nous vivons avec notre pensée. Ce que la psychologie et les neurosciences nous apprennent aujourd'hui, c'est qu'avant que notre mental crée le monde crée notre mental. C'est-à-dire qu'on va générer notre monde à partir de la pensée que ce monde va instiller en nous, avant que l'on ait eu le moindre choix. Le monde dans lequel nous sommes nés est le produit de la pensée des autres. C'est une chaîne causale qui dure depuis toujours, même si au final, eh bien c'est nous qui créons ce monde. Bon, un peu philosophique, on va revenir dans quelque chose de plus concret. On ne peut rien faire du monde qui fabrique notre pensée et qui a instillé des pensées limitantes, fausses sur nous et sur les autres. Cependant, parce que in fine nous créons ce monde, eh bien nous pouvons apprendre à responsabiliser la pensée avec laquelle nous créons notre monde, dorénavant. La capacité de guérir vient de cette volonté-là. Pas une fois pour toutes, mais moment par moment. C'est un engagement qui peut être chahuté sur le terrain, puis se renouveler. Ça échappe à tout le monde à un moment, mais forcément, on fait du hors-piste, et lui compris. Et donc, il n'est pas question de prêcher une forme de naïveté ou de pensée positive, pensée magique. Guérir, c'est avoir la volonté de reconsidérer notre vie en entier. Et il a cette phrase que je trouve très belle, puisqu'il dit « Bien que notre âme blessée puisse être tyrannique, il s'agit d'un tyran qui espère secrètement être déposé. » Donc ce chemin de guérison consiste à être libre de perdre des croyances sur soi, d'être prêt à vivre des revirements improbables. Et vous savez que le glissement a eu lieu dans la manière dont vous vous référez désormais à vos traumas. Même si le parcours ne change pas, notre sentiment sur notre parcours, lui, peut changer. D'ailleurs, un de ses collègues médecins dont on a déjà parlé longuement dans ce podcast, qui est Bessel van der Kolk, parce que bon, certains l'ont comme collègue, pourquoi pas, et qui connaît son histoire, avec le nazisme notamment, et la séparation d'avec sa mère, eh bien lui a dit un jour, je cite, « Tu n'as pas à emmener ton trauma partout avec toi. Tu n'as pas à emmener Auschwitz partout avec toi. » Parce qu'il trouvait que son collègue canadien portait le désespoir comme une ombre prête à revenir dès qu'il vivait un moment de recul, un moment de découragement, un moment de relâchement. C'était comme un mode par défaut, il rebasculait en victime de cette atrocité. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la signification que ces événements traumatiques avaient pris dans son cerveau d'enfant au-delà de son contrôle. Donc c'était pas juste les événements, mais c'était la signification, la morale qui en était sorti, selon laquelle il était endommagé, sans espoir de guérison, et ça avait toujours, comme il dit, coloré ses expériences subjectives de la vie. Même si cette fausse croyance rentrait en contradiction avec ses valeurs profondes, avec ses convictions en tant qu'humain, lui qui a toujours eu la conviction que chacun avait le potentiel de grandir indépendamment de ce qui lui était arrivé, n'arrivait pas à se voir comme autre chose qu'une exception à cette règle. Preuve que la pensée peut réellement rester inflexible dans le temps. Donc il avait une vision défaitiste qui persistait, même lorsqu'elle dissonnait avec d'autres expériences vécues. Et ce qui va rendre justement ces expériences vers la complétude réellement inspirantes et même improbables, c'est qu'elles effacent la notion que certains traumas sont au-delà de toute guérison. Et il cite un livre intitulé « Le choix » qui explique que, certes, nul ne peut choisir sa naissance, qui il a autour de lui, mais sa seule autonomie, son habilité, eh bien c'est son point de vue sur ces choses. Donc personne n'y pense réellement, mais notre attitude vis-à-vis de notre passé est un élément clé de notre reconstruction. On peut soit devenir prisonnier de sa souffrance, soit choisir de libérer cette partie de soi qui perdait de l'énergie non-stop afin de conserver sa rage à sa place en nous enfermant dans le drame de l'enfance que l'on n'a jamais eue. Il est donc question ici, avec l'auteur, de faire son deuil sur ce qu'il s'est passé et de perdre le besoin d'un autre passé. Accepter ce qu'il s'est passé et de cette manière choisir. Cela ne veut bien évidemment pas dire que l'on prétend aimer ce qui a eu lieu ou que l'on valide cette souffrance, mais on laisse tout cela être quelque chose qui a échappé à notre contrôle. Ce n'était pas acceptable et c'est arrivé. Et l'idée, c'est de tenter de se séparer de cette énergie de ressentiment, de cette crispation qui vient de ce bug initial entre ce qui aurait dû se passer et ce qui a eu lieu réellement. Donc on choisit de se séparer de ces croyances créées lorsque l'on ne pouvait pas faire autrement. Deuxième livre qu'il cite, c'est le The Gift, le don, où il est question cette fois-ci de demeurer avec ce qui a eu lieu au point où plus rien n'a besoin de changer. Pour guérir, je n'ai pas besoin d'être parfaite ou d'être spirituelle. J'ai juste besoin d'être prête à participer au processus qui doit se développer en moi pour que la guérison se fasse toute seule. C'est ça, laisser la guérison se faire toute seule, sans injonction moralisante. Donc tout le monde, qu'importe son histoire, peut commencer ce chemin, avec cette fois-ci, non pas la peur comme guide, non pas l'autodétestation comme guide, non pas l'hypervigilance comme guide, mais le cœur. Avec le cerveau comme partenaire curieux, donc curiosité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en mode trauma, on est tout sauf curieux. Curieux, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver et de se le demander avec une forme de légèreté, alors que le trauma, c'est savoir par défaut, et qui est le pessimisme, le scénario du pire, et s'attendre à ce que la collapsologie opère à nouveau. Tout va collapser, je le sais, je le sens, je l'ai vécu, ça va arriver encore et encore. On est coincé dans une boucle temporelle, un jour sans fin. Et donc là, la curiosité, c'est intéressant comme concept à mettre ici. Si je suis curieux, j'admets que demain peut me surprendre. Je ne peux pas le prévoir. Je ne connais pas demain, je ne sais pas. Je ne peux pas ressentir ce que je ne connais pas. Donc quand on est en mode blessé, eh bien le cerveau nous ment en permanence en prenant la répétition du même par erreur de calcul, donc à l'opposé de la curiosité. Et le cerveau rationne son énergie, se dit « je vais rester dans ce que je connais et je ne vais pas aller postuler un ailleurs coûteux en énergie. Je reste là où je suis, dans ce que j'ai déjà ressenti. » Et lorsque le même se produit, eh bien on se dit « je suis maudit », on prend la ruse traumatique cérébrale pour un destin. Et donc il est temps de partager maintenant les principes de la guérison tels qu'étayés par Gabor Maté. L'auteur nous indique que tout dans la nature grandit et lutte à sa manière pour imposer sa propre identité, en insistant à tout prix contre toute résistance. Et donc, en ce sens, on ne peut pas planter la guérison dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il n'y a pas de GPS générique pour tout le monde. C'est quelque chose que chacun doit trouver sur sa propre route individuelle. Guérir, c'est baliser le terrain, le décrire, se familiariser avec, se préparer à rencontrer des obstacles, être curieux des attitudes qui sont réveillées par certains triggers. Donc on ne peut pas forcer la nature, on ne peut que la nourrir. On ne peut pas forcer la nature, on ne peut que la nourrir. Et donc on ne peut pas imposer la guérison à quelqu'un. Il cite quatre grandes qualités, nous indique que nous sommes sur ce chemin de guérison. Ce ne sont pas des qualités rigides, ce sont des principes globaux de guérison qui sont utiles et nous aident à comprendre que finalement guérir, c'est accueillir à nouveau ces expressions qu'il va décrire, ces aspects dans nos vies et les laisser nous enseigner. Première de ces qualités, c'est l'authenticité. On y revient. Alors, l'authenticité, on va pouvoir un petit peu mieux la décrire ici, c'est l'inverse de la performance. Et d'ailleurs, quand on parle d'authenticité, c'est quelque chose d'un peu flou, qui est dur à saisir, et pourtant c'est quelque chose de l'ordre du véritable, quelque chose de l'ordre du vrai, ce qui va à l'essence, qui est à l'origine primaire des choses. C'est dur à décrire parce que ce n'est pas un concept, mais plutôt quelque chose de vécu, d'expérimenté, dans lequel on baigne, on sait ce que c'est lorsque c'est là. Mais on ne peut pas courir après l'authenticité, on ne peut que l'incarner. Pour autant, ce n'est pas un idéal, puisque être authentique, c'est s'accepter complètement. Si je me dissimule derrière la perfection, le zéro besoin, zéro colère, zéro aspirité, je ne suis pas authentique. Dans le people pleasing, je ne suis pas authentique non plus. Avec l'authenticité, il n'y a pas de résistance. C'est ne plus avoir peur de ne pas être aimé ou de décevoir quelqu'un en raison de nos défauts, qui sont simplement l'autre côté de ce que c'est que d'être qui je suis. Et pour un people pleaser, eh bien tout cela c'est douloureux, puisque l'on va décevoir dans cette approche quiconque voulait nous rendre serviles, dociles, lisses, parfaits, disponibles, etc. Donc le moyen le plus simple pour comprendre cette qualité, c'est de remarquer lorsqu'elle n'est pas là en nous, et tenter de l'impliquer avec curiosité. Donc, par exemple, on reconnaît le manque d'authenticité dans la tension qu'elle crée en nous. Lorsque l'on n'est plus authentique, on est un peu nerveux. Elle crée de l'anxiété, de l'irritabilité, du regret, de la dépression, de la fatigue. Quand on fait face à tout cela, on est en droit de se demander « Est-ce qu'il y a une voix intérieure à laquelle je suis en train de résister là maintenant, que j'ignore, que j'évite ? Est-ce qu'il y a des vérités que j'évite de confronter par peur de perdre la sécurité et l'appartenance ? Dans ma rencontre avec les autres, est-ce que je m'abandonne ? Est-ce que j'abandonne mes besoins, mes valeurs ? Quelle peur rationnelle ou quelle narration familière m'empêche d'être moi-même là tout de suite ? Est-ce que je sais ce que sont mes valeurs ? Et est-ce que ma vie leur ressemble ? Est-ce que j'ai la capacité de me dire « cette relation me fait mal » sans rationaliser ensuite ? Si je constate que j'ai peur d'être moi-même dans une situation donnée, cette impulsion à regarder mon attitude est ce qui va rendre l'authenticité plus forte. Et après suffisamment de ces allers-retours sur moi-même, eh bien je peux commencer à m'apercevoir que j'ai finalement le choix d'agir différemment. Avant de trahir mes désirs, mes besoins, alors qu'auparavant je n'aurais simplement pas eu cette conscience parce que j'étais en mode survie. Donc là, on peut poser les choses. Je remarque que je suis sur le point de taire un sentiment et je me demande s'il y a une autre option. Et cette émergence d'une nouvelle option est un signe sûr de mon moi authentique qui renaît. Et donc, dans la guérison et l'authenticité, il s'agit de restaurer mon ressenti, mes limites, ma voix, mes besoins, mon intuition. Donc c'est un retour à soi, pas un retour au passé. Deuxième qualité qui nous indique que l'on guérit, l'autonomie. C'est-à-dire le pouvoir d'action. C'est la deuxième qualité qui ressurgit dans la guérison. Je sais que je guéris lorsque j'obtiens la capacité à prendre la responsabilité de mon existence, de mes décisions. D'ailleurs, pour un être humain, être privé de ce levier est un facteur de stress. Et on le voit à l'échelle méta, quand on parle de politique, de pauvreté, d'injustice sociale, tout ça, l'état du monde aujourd'hui, qui donc prive les gens de leur autonomie et qui génère donc du stress. Et récupérer une autonomie d'action est un accélérateur de guérison. Et il observe, le docteur Maté, que beaucoup de rémissions de maladies en phase terminale surviennent lorsque l'on retrouve ce pouvoir d'agir. Il observait que ceux qui prennent le contrôle de leur propre guérison, qui posent des questions, qui embêtent le personnel médical en voulant vraiment tout comprendre à leur traitement parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec telle et telle chose, sont ceux qui ont le plus de chances de voir un rétablissement sur le long terme, en raison de cette proactivité qui fait d'eux les agents de leur destinée, plutôt que des patients dociles et prostrés au milieu d'injonctions extérieures. D'ailleurs, l'ironie de la chose, c'est que le mantra du capitalisme, qui est « sois tout ce que tu veux être, fais à ta manière », met en avant l'agentivité des individus en prétendant que le contexte socio-économique n'a pas de prise sur eux, que le contexte ne va pas interférer de manière directe ou indirecte avec ses choix. Mais bon. Donc guérir, ce n'est pas prôner la pensée magique, puisque la vie dans son ensemble, comme il le rappelle, est bien plus grande que nous. Donc authenticité et autonomie, oui, mais la guérison ne doit pas consister à prétendre être au contrôle lorsque l'on ne l'est pas. Quand on parle d'autonomie, il ne s'agit pas d'enseigner l'omniscience ou l'omnipotence, mais de signaler que je peux décider de ce que je vais faire de ma vie, de ce à quoi je vais m'identifier, et on peut, nous dit Gabor Maté, renégocier les traits de notre personnalité, les traits avec lesquels nous nous sommes identifiés, ceux qui nous ont apporté une sécurité factice, mais qui font désormais de nous des prisonniers. Lorsque l'on est captif de l'image de la bonne personne, celle qui plaît, qui est intéressante, qui divertit, eh bien, on perd cette autonomie. On est réduit à une tromperie, une fallacie, on se calcifie. A contrario, l'autonomie, c'est le droit d'évaluer les choses librement et de choisir l'authenticité, ce qui vient de nos tripes, plutôt que les attentes du monde et son conditionnement. La troisième qualité qui nous permet de rassembler ces fragments de nous éparpillés et de guérir, c'est la colère. Parce qu'il existe une colère saine, qui est absolument nécessaire, notamment dans ce processus de guérison. Et puisqu'il est parfois complexe de définir ce qu'est une colère saine, eh bien le docteur commence par décrire ce qu'elle n'est pas. La colère saine n'est pas la rage. Ce n'est pas une rage aveugle, ce n'est pas une éruption, ce n'est pas du ressentiment, du venin, de la bile, puisque ces attributs relèvent précisément de la colère brute et nocive qui a donné mauvaise presse au groupe colère dans son ensemble. Cette colère éruptive, qui provient essentiellement d'émotions qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas été conscientisées, qui n'ont pas été comprises par le sujet qui va agir de manière volcanique, parce qu'il est courroucé par des courants internes mouvementés qu'il ne maîtrise pas. Donc ce n'est pas ça la colère saine. Même chose pour la colère couvée. Ces moments où l'on ne dit pas les choses telles que l'on les pense, lorsque l'on rumine, là on bascule dans des expressions détournées, dans du passif agressif, tout cela c'est toxique, et ça n'a rien à voir avec la colère saine qui est, pour sa part, une défense, une délimitation, une frontière active qui s'enclenche lorsque l'on perçoit une menace à sa vie. Cette colère est, dit-il, l'expression d'une intégrité émotionnelle. Un système de rage protecteur, et cette expression fait partie de notre complétude, de ce mouvement vers la complétude qui implique donc la réintégration de cette émotion, puisque faisant partie du répertoire des émotions disponibles. La colère saine, c'est une réponse donnée sur l'instant. Et ça, c'est très important. Une réponse donnée sur l'instant. Quelqu'un me fait du tort, me froisse, marche sur mes plates-bandes, je ne vais pas rationaliser, je ne vais pas me dire c'est moi qui ai peut-être mal imaginé, etc. J'exprime mon mécontentement plutôt que de me fondre dans l'image de la bonne personne qui ne dit rien, qui ne proteste pas, qui n'y voit rien à redire. J'accepte donc que l'autre me juge, parce que là je crée une disruption au calme ambiant, à la paix sociale qui se faisait jadis au prix de mon intégrité émotionnelle. Donc plutôt que de passer sous silence et de tout couver, eh bien je fais preuve d'assertivité, on la remet dans la barque parce que la barque ne prend plus l'eau, et je marque mon désaccord, quitte à décevoir. Eh oui. J'apporte pour la première fois ma contribution réelle, honnête, plutôt que de laisser l'autre, que de laisser faire, que de laisser couler pour ne pas troubler l'ordre non naturel des choses. Donc la colère, c'est une expression de soi, honnête. Ce n'est pas un monstre que l'on garde dans sa cave jusqu'à ce que l'on n'en puisse plus et qu'on érupte de manière volcanique. La colère, elle est situationnelle. Je me mets en colère face à une situation donnée sur l'instant. Ce qui veut dire qu'elle a une durée limitée et s'en va lorsqu'elle a accompli sa mission d'éliminer la menace, s'efface. Donc ce n'est pas une expérience à craindre, ce n'est pas non plus un irritant chronique qui est sous-jacent et qui me fait passer en mode passif-agressif, c'est un sentiment valide qui en soi ne veut faire de mal à personne, qui veut simplement me protéger. Donc contrairement à ce que la société nous dit, ce n'est pas un problème moral, ça existe, c'est tout, la colère. Et le rôle de la colère saine est simplement de rétablir un équilibre quand une situation devient toxique, point. Repousser la colère, en revanche, produit, nous dit Gabor Maté, une combustion individuelle, et je trouve le mot bien choisi, on l'imagine bien, après des années, parfois des décennies, à minimiser son ressenti au point que l'on ne sait même plus ce que l'on ressent. On est comme anesthésié, on ne se met jamais en colère. Mais la colère n'est pas une performance, c'est, je cite, un non puissant et convaincu. Tu ne me traiteras pas comme ça, point. Il est question donc de sortir de la rationalisation qui pousse à se dire « ce n'est peut-être pas si mal, peut-être que j'exagère ». Donc il consiste à cesser de tolérer les situations qui automatisent le stress. Et la guérison, c'est une opportunité d'apprendre à laisser la colère émerger, dire « je n'aime pas ça, je ne veux pas ceci ». Et la colère refoulée, selon des recherches, a des conséquences claires sur la santé avec des pathologies de type fibromyalgie, maladie de Charcot, des patients qui sont très sympathiques, même les plus agréables selon le personnel hospitalier qui a participé à ces études, les moins en contact également avec leur colère. Et ce sont aussi les patients chez qui l'on observe une rapide dégradation de leurs conditions et de leur qualité de vie. Combustion individuelle. Fibromyalgie liée dans de nombreux cas au traumatisme de l'enfance. Et la recherche confirme que cacher la colère coïncide avec un haut niveau de douleur dans sa vie quotidienne. Chez ces patients, atteint de fibromyalgie. Donc une intervention psychologique peut axer les choses sur une santé saine en montrant comment se mettre en colère naturellement avec des émotions naturelles dont la colère fait simplement partie. Très intéressant. Et la quatrième qualité qui nous accompagne dans la guérison, c'est l'acceptation. Accepter que les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Reconnaître qu'à cet instant, les choses ne peuvent pas être autrement, plutôt que de résister. Accepter à quel point il est également difficile d'accepter les choses. Ça, c'est la vraie acceptation qui ne retire en aucun cas les aspects de la réalité, y compris notre impulsion à refuser d'accepter. La tristesse, la rage de ne pas contrôler. Tout à sa place, même de dire que je ne sais pas comment je me sens, que mes sentiments sont mitigés. Accepter d'avoir de la rage, d'avoir de la haine, ou de ne pas savoir si c'est de la rage, de la haine, autre chose, parce que la confusion peut être une tentative de notre esprit de ne pas les ressentir. Lorsqu'on ne sait pas ce que l'on ressent, on ne le ressent pas. Ce n'est pas toléré pour autant. Accepter, ça vitalise, car ça met de la place pour les trois autres caractéristiques dont on a parlé. Admettre de la colère, c'est augmenter notre autonomie. Ça fait de la place pour notre authenticité. Et donc accepter, ce n'est pas tolérer l'intolérable, parce que ça, c'est dangereux. Et ça revient à rejeter des parties de nous qui mériteraient d'être respectées. Et ces attitudes sont aux antipodes de la véritable acceptation. Par exemple, lorsqu'on parle de racisme, de pauvreté et d'injustice sociale, eh bien, ça ne devrait pas exister, et ça existe. Donc on doit dans un premier temps reconnaître notre douleur face à leur existence, ça c'est l'acceptation, avant de réfléchir aux moyens d'éliminer leur expression, et pour cela il nous faut notre colère saine qui va advenir, puis laisser place à une capacité d'action. Donc quatre principes de guérison à intégrer dans son quotidien, sur lesquels réfléchir, méditer pour nous, avec cinq compassions également à avoir en tête pour que tout cela soit plus complet. Donc on va continuer dans la description de ces éléments de guérison en parlant de compassion. Donc cinq compassions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, quand on entend compassion, on se dit, bon, bah déjà c'est un concept creux, nul, faible et boring. Hein, ça fait un peu liturgique, je me laisse faire, j'ai de la compassion, je suis molle, bon. En termes de champ d'étude, c'est juste l'hérésie absolue, tout comme l'était d'ailleurs la méditation il y a quelques décennies. On ne parle pas de compassion en termes scientifiques, etc. Il parle pourtant, lui, Gabor Maté, d'auto-compassion comme d'une force si puissante qu'elle peut avoir un impact sur la physiologie, la santé physique et la longévité des individus. Il aborde cinq niveaux de compassion qui se renforcent sans hiérarchie et qui nous encouragent et nous guident à sortir de l'anesthésie. Première compassion, c'est la compassion humaine ordinaire. Compassion veut dire souffrir avec, l'habilité, la capacité à être avec la souffrance de quelqu'un d'autre, ou sa souffrance à soi, être ému par la connaissance que quelqu'un souffre ou que je souffre. Donc la compassion, elle peut être interpersonnelle, elle implique l'empathie, donc ça peut fluctuer, hein, parce qu'on peut aussi saturer dans ce registre et vivre un épuisement compassionnel, une fatigue compassionnelle au travail par exemple, bien que le sentiment de compassion revienne ensuite une fois que l'on s'est reposé. Dans l'absence de compassion, on bascule dans le registre des sociopathes, des psychopathes qui, sans doute, suite à une blessure de l'âme, ont supprimé tout l'éventail de la souffrance avec le substrat d'émotions humaines qui va avec. Donc, même si on se souvient de la mise en garde que nous faisait George K. Simons dans In Sheep's Clothing, qui parlait de la manipulation dans un des épisodes sur le danger de surpathologiser et de baisser la garde parce que l'on veut humaniser les psychopathes, etc. C'est un autre sujet, je pense que vous vous souvenez de cet épisode. Pour le reste du commun des mortels, comment faire lorsque l'on manque de compassion vis-à-vis de soi? Eh bien, on peut se demander quelle peine en nous n'a pas été métabolisée, voir dans quelle situation on a de la compassion pour soi et dans quelle on en manque, afin de déjà mieux se connaître. Cartographie simplement de soi. Ce n'est pas de la pitié, hein, la compassion, parce que la pitié n'aide personne. La pitié, ça présume des rôles différents et inégaux, où il y en a un qui regarde l'autre de haut. Il y a une asymétrie dans la pitié. Et on le voit dans des questions raciales, économiques, où on traite la différence de l'autre comme un fait par défaut, qui serait lié à son essence. Donc voilà, ce n'est pas de la pitié. L'autocompassion, ce n'est pas non plus de l'apitoiement, qui serait sa forme la moins saine, même s'il peut être confortable de se sentir désolé pour soi, on l'a tous été, bien évidemment, se voir comme un maudit, comme la victime du destin. Le problème de ce point de vue, c'est qu'il déresponsabilise. J'en parle notamment dans mon livre, mon livre s'appelle Métamorphose, le mythe de la métamorphose, je viens de créer quelque chose. Donc l'individu se déresponsabilise, alors que de l'autocompassion, ce n'est pas de résister aux faits. C'est juste de dire j'ai mal, je souffre. C'est une curiosité et une compréhension de soi. Pourquoi je me sens comme ça sans jugement hâtif ? Faire preuve de patience, de curiosité vis-à-vis de mes états, et non pas juste chercher l'efficacité, il faut se sentir bien, il faut se remuer, il faut être au taquet. Deuxième niveau de compassion, donc il y avait le premier niveau, c'est la compassion humaine ordinaire. Le deuxième niveau de compassion, c'est la compassion de la reconnaissance, qui veut dire que je reconnais les signaux de mon corps. Avant que le corps ne dise non, parce qu'un corps qui succombe le fait en dernier recours, lorsqu'aucun signal n'a été écouté. Mais on peut apprendre à écouter ces alarmes subtiles. Réentraîner notre corps à être plus sensible à ce qui se passe en lui et à en faire quelque chose, à en déduire quelque chose. J'ai la respiration qui accélère, mes mains sont moites. Plutôt que d'aller camoufler, je vais dire mettre pause sur image et essayer d'être curieux de ce qui m'arrive en rapport avec tel environnement et telle situation. Et cela passe dans un premier temps, nous dit Gabor Maté, par la connaissance que votre personnalité ne restitue pas réellement qui vous êtes. Et que vous n'êtes pas votre personnalité. Elle n'est pas fausse. Il dit que c'est simplement un vêtement que vous portez et qui vous recouvre. Par exemple, je suis forte, je suis grande gueule, je suis solide. C'est une personnalité. On se dit qu'on ne peut pas la retirer, cette personnalité. Et il n'est pas question d'ailleurs de tout enlever pour devenir authentique, mais penser que notre personnalité ne fait que nous recouvrir aide à savoir qu'elle ne nous définit pas dans notre essence. Cette personnalité, c'est une adaptation. J'ai dû être forte, j'ai dû apprendre à l'être. C'est un mélange de traits naturels et de mécanismes adaptatifs qui représentent non pas notre vrai soi, mais sa perte. C'est intéressant. Elle n'exprime pas forcément nos vrais besoins, notre attente, notre nature profonde, mais notre tentative de compenser leur éloignement de nous. Guérir, donc, ce n'est pas tout retirer, mais c'est nous libérer de sa programmation automatisée et se reconnecter à ce qui est essentiel. Être libéré, c'est avoir accès à notre personnalité libre sur le moment. Se détendre en prenant plus de place pour se faire connaître réellement. Parce que réellement, the body keeps the score. Le corps n'oublie rien. Je dois apprendre son langage pour ne plus supprimer ce qu'il y a en lui d'authentique qui est émis. Et si je dis que je suis forte et que mon corps me dit le contraire, eh bien je ne vais pas écouter mon corps et je vais suivre la personnalité traumatique aveuglément, au détriment du corps. Qui finira par ne plus faire de signaux subtils, mais des signaux lourds et à dégénérer dans quelque chose de plus sérieux. Donc en parallèle, il faut comprendre que l'érection de cette personnalité, avec perte de notre nature profonde, n'a rien de personnel, ce n'est pas un échec. Il faut le voir comme quelque chose d'endémique, que notre culture encourage. On adore les gens forts, les gens vaillants, les gens qui ne pleurent pas, les gens qui ne rechignent pas, qui se relèvent à chaque fois. Et comment la société donc exploite cette mise sous silence de nos besoins réels. Et dans une dynamique donc universelle, nous ne sommes pas les seuls à vivre cela. Et donc c'est cela la compassion de la reconnaissance. Et puis il y a une autre compassion, c'est l'enquête compatissante. Si on désautomatise nos pratiques et que l'on doit faire preuve de compassion, eh bien il y a un élément important à posséder, l'humilité. Puisque l'on ne sait pas où l'on va et que l'on ne détient pas les réponses en amont dans cette quête. Donc on doit apprendre à en savoir plus sur nous, en faisant preuve d'ouverture, pas toujours la même chose, pas toujours la même image, pas toujours le même schéma. Faire preuve d'ouverture, de générosité, de patience. Ouf, patience, mot au nid. Pour les autres, oui, pour nous, non. Comme on le ferait d'ailleurs avec un ami, dans le besoin, nous autoriser à être perdus, confus, perplexes, sans nous exhorter à être autre chose à ce moment-là. Et, évidemment, si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, il n'est pas question de dire « tu devrais avoir de la compassion », mais de porter attention à son absence. Être curieux. La compassion, c'est une attitude, y compris vis-à-vis de son absence. Donc ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude qu'on peut adopter. On peut l'inviter indépendamment de notre état et sans jugement. Même nos émotions négatives peuvent être objet de curiosité. Ce qui est prôné par Gabor Maté, c'est cette reconnexion au corps à travers la compassion. Donc il parle dans son livre de respiration, de présence corporelle, de ressenti sensoriel, de mouvement, des signaux internes qui sont mis en interoception, s'intéresser à la sécurité de son système nerveux, revenir au corps, revenir à la réalité, à soi, au présent, en passant par la compassion et non plus l'idéologie de la toute-puissance. Et on va donc terminer avec un exercice à faire soit au quotidien, soit une fois par semaine, ou alors à votre rythme. Écrire plutôt que de taper à l'ordi, une fois par semaine, idéalement, recommande-t-il. Un petit exercice pour se quitter après cette longue étude sur Gabor Maté et son mythe de la normalité passionnant. Si vous êtes prêt et qu'il n'y a pas eu trop d'infos d'un coup, On termine avec cet exercice. Je vais vous poser 6 questions. Ces 6 questions que vous pouvez noter, que vous pouvez consigner dans un journal, vous poser à vous-même régulièrement, histoire de faire un point d'étape avec votre guérison. La première question, c'est: dans les moments importants de ma vie, à quoi ou à qui est-ce que je ne dis pas non? Dans ma vie d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai senti qu'un non voulait s'exprimer tout en disant oui ou alors en gardant le silence? Est-ce que je vais accepter de voir une amie en détresse alors que je vais mal? Sachant qu'ici, c'est l'habitude qui pose problème dans la personnalité des gens. C'est pas le fait de le faire une fois, c'est lorsqu'on le fait de manière répétée, on va mal et on continue tout de même d'aller aider les personnes en détresse. Au travail, dans les relations perso, est-ce que j'accepte une charge en plus que ce que mon corps me donne comme autorisation? Est-ce que je ramène du travail à la maison? Est-ce que je ne dis pas non à un collègue qui m'étouffe dans mon espace personnel? Est-ce que je réponds ce que l'on veut que je dise et non pas la vérité parce que j'ai appris à être conforme? Est-ce que j'accepte un verre alors que je suis fatiguée? Est-ce que j'accepte des rapports sexuels alors que je n'en ai pas vraiment envie? Et avec qui je trouve difficile de dire non? Et lorsque je le dis, est-ce que je me sens coupable? Tout cela, c'est la première question que l'on peut se poser régulièrement. Je la répète, dans les moments importants de ma vie, à quoi ou à qui est-ce que je ne dis pas non? Deuxième question, comment cette inhabilité à dire non impacte ma vie? On a des signaux du corps pour cela. Ça peut être des douleurs physiques, insomnie, douleurs dorsales, douleurs de spasmes musculaires, douleurs abdominales, digestives, des problèmes de migraine, un besoin de manger de manière compulsive, lorsque je m'ennuie, lorsque je suis dans l'anxiété, lorsque j'ai un déficit émotionnel. Comment cette inhabilité à dire non impacte ma vie? Avec ses signaux physiques. Et d'ailleurs, si l'on dit oui pour être proche de quelqu'un, de toute façon, le docteur Gabor Maté nous dit que cela entraîne du ressentiment dans la pratique et nous éloigne in fine de cette personne, puisqu'elle finit par se rendre compte à travers des expressions faciales ou notre langage corporel que l'on dit oui à contre-cœur. Tout cela, c'est des douleurs donc, que l'on peut sentir dans le ventre, dans le cou, des résidus de choses non dites, des sentiments pas honorés, avec un impact dans le monde de tous les jours. Donc, à côté de quoi je passe dans ma vie en raison de mon incapacité à m'imposer, et donc à côté de quoi je passe, donc joie, fun, libido, etc. Ça, c'était la question 2, comment cette inhabilité à dire non impacte ma vie. Je me prive donc de ces éléments. Troisième question, quel signal physique ai-je ignoré qui pourrait m'avertir? Ici, on commence avec l'impact physique pour comprendre où l'authenticité a été masquée. Donc là, on fait un inventaire régulier du corps qui nous sort du déni. On regarde ses symptômes, hein, la fatigue, les maux de tête, la douleur en bas du dos. Et la question est de se demander quel nom cela me montre. Parce qu'il faut être vigilant sur le système de récompense du cerveau. Vous savez, il y a des niveaux élevés de dopamine et d'endorphine que l'on libère lorsque les autres nous apprécient, lorsqu'ils apprécient notre déni. Et donc, on a ce plaisir d'être vu comme super aux yeux des autres. Et même si au départ, c'est une belle impulsion de vouloir être bien vu des autres, eh bien, lorsque ça devient compulsif, ça peut complètement faire chauffer le système, devenir un impératif. On est déterminé à toujours être cette bonne personne. Et on va se confondre avec notre travail, lorsque l'on est docteur, avocat, ou alors avec notre statut de super maman ou d'homme de la maison. Donc, qu'est-ce que le corps nous a dit tout au long que l'on n'a pas écouté? Et l'entendre pour éviter qu'il nous le hurle. Ça, c'est la question 3. Quel signal physique ai-je ignoré qui pourrait m'avertir que l'on peut se poser une fois par semaine? Quatrième question, quelle est l'histoire cachée derrière mon incapacité à dire non? Quelle narration, quelle rationalisation, quelle justification va rendre ces habitudes normales? Et souvent, on ne sait même pas ce que sont ces histoires. On pense que c'est vrai, on va dire, tu sais comment maman est, c'est plus simple de lui dire oui. Et donc, qu'est-ce que je dois croire sur moi-même pour nier mes propres besoins de cette façon? Quelle histoire familiale? Si je dis non, est-ce que ça veut dire que je suis faible? Je dois être fort, parce que sinon je ne suis pas aimable. Je suis responsable de ce que les autres ressentent, je ne dois pas les décevoir. S'ils savaient ce que je pense vraiment, ils ne m'aimeraient plus. C'est égoïste de dire non, ce n'est pas aimable, donc d'avoir de la colère, tout ça, ça c'est la narration intérieure. Alors que si vos amis vous disent non à vos demandes, je ne pense pas que vous alliez les considérer de faibles. Vous allez vous dire, bah là il a telle contrainte, il ne peut pas, j'aurais bien aimé, bon mais ok. Est-ce que vous chargeriez quelqu'un de la responsabilité de ne jamais devoir vous décevoir dans vos attentes? Diriez-vous à votre enfant qu'il est sans valeur s'il n'a pas d'utilité directe? Cinquième question, où est-ce que j'ai appris ces histoires? À la naissance, on n'a pas le sentiment d'être sans valeur. Par contre, si on nous traite mal, on va le prendre personnellement. Même si les parents sont stressés et malheureux, lorsqu'ils vont mal nous traiter, on va le prendre personnellement et fabriquer ces histoires. Où est-ce que j'ai appris ces histoires ? Sixième et dernière question. Où est-ce que j'ignore le oui qui voulait être dit ? Retenir un oui, ça peut arriver aussi. Quelle joie a-t-on nié par croyance qu'on ne la mérite pas ? Et en quoi cette croyance me limite dans mes expériences ? Où est-ce que j'ignore un oui qui veut être dit ? Voilà, nous avons enfin terminé, clôturé l'étude du livre d'abord maté, et on voit arriver au terme que le chemin de la guérison, c'est un désapprentissage plutôt qu'un accomplissement. Ce n'est pas un objectif spectaculaire, c'est un retour à la simplicité de son corps, de ses signaux, à sa spontanéité, authenticité, connexion, à sa paix intérieure. Donc ça consiste à délaisser ce qui n'est pas nous, la force, le grandiose, le côté incassable. Et donc, en résumé, guérir, c'est se voir, se sentir, se comprendre, s'exprimer avec authenticité, s'aimer à travers la compassion. C'est un processus qui est relationnel, qui nous fait revenir à soi, qui nous réaligne avec le corps et l'esprit, et qui donc nous ramène à quelque chose de beaucoup plus incarné. Voilà, donc il y en avait des choses à dire sur le mythe de la normalité, un épisode n'aurait pas pu contenir toutes ces choses sans faire exploser notre cerveau. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, ce que cela génère en vous, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez plus d'épisodes comme cela, vous pouvez également soutenir le podcast, il y a une cagnotte qui a été lancée et qui est en lien de la description, vous pouvez également soutenir par PayPal, et je réponds à vos mails sur soignikangar@gmail.com. Je vous accompagne également en one-on-one, donc vous pouvez me poser des questions par rapport à cet accompagnement privé. Mais voilà, le mythe de la normalité Gabor Maté, c'était donc un monument que je ne pouvais pas lire toute seule et que j'ai voulu partager avec vous, même si cela s'est fait en décalé. J'avais prévu normalement de basculer sur Patreon et puis ensuite les événements de la vie ont fait que j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper de cet aspect-là et que je suis revenue vous le livrer ici, et tant mieux, on verra le reste plus tard. Donc voilà, merci pour tout, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt du côté de chez Soigny. Au revoir.